Le mariage faillit tourner court au bout de 2 mois du fait qu'Aureliano II, voulant réparer ses torts envers Petrakotès, fit exécuter son portrait vêtu en reine de Madagascar. Lorsque Fernanda l'apprit, elle boucla à nouveau ses mal de jeune mariée et quitta Macondo sans dire adieu. Aureliano II la rattrapa sur le chemin du Marigot. Après maintes prières et promesses de s'amender, il parvint à la ramener à la maison et laissa tomber sa concubine. Petrakotès, consciente de sa force, ne parut pas se faire de soucis. C'était elle qui avait fait de lui un homme. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, elle l'avait sorti du cabinet de travail de Melquiades, la tête pleine d'idées fantastiques et sans aucun contact avec la réalité, et elle lui avait donné sa place dans le monde. La nature en avait fait un être renfermé, farouche, porté sur la méditation solitaire, mais elle lui avait modelé un tempérament à l'opposé de celui-là. Plein de vie, expansif, elle l'avait ouvert, lui avait communiqué sa joie de vivre, le plaisir de faire la noce et de jeter l'argent par les fenêtres, et l'avait ainsi transformé au dedans comme au dehors en l'homme auquel elle avait rêvé pour elle-même depuis l'adolescence. Il s'était donc marié, comme tôt ou tard se marient les garçons qu'on a enfantés. Il n'osa pas l'en avertir à l'avance. En l'occurrence, il se comporta de manière si puérile qu'il en vint à feindre de fausses rancœurs, des ressentiments imaginaires, cherchant tout ce qui pourrait inciter Petrakotès à prendre l'initiative de la rupture. Un jour qu'Aureliano II lui adressait injustement quelques reproches, elle évita de tomber dans le piège et mit les choses au point. « Ce qu'il y a, lui dit-elle, c'est que tu veux épouser la reine. » Aureliano II, tout honteux, simula un collapsus dû à la colère, se déclara incompris et outragé et cessa de lui rendre visite. Petrakotès, sans se départir un seul instant de sa superbe assurance de fauve au repos, prête à l'oreille à la musique et aux pétarades de la noce, à l'effrénée tohu-bohu des réjouissances publiques, comme si tout cela n'avait été qu'une nouvelle frasque d'Aureliano II. Elle tranquillisait d'un sourire ceux qui venaient s'apitoyer sur son sort. « Ne vous en faites pas, leur disait-elle. Chez moi, ce sont les reines qui font mes commissions. » À une voisine qui lui apportait des cierges fabriqués à dessein pour allumer autour du portrait de l'amant perdu, elle répondit avec une mystérieuse assurance « La seule bougie qui le fera revenir est toujours allumée. » Comme elle l'avait prévu, Aureliano II s'en retourna chez elle dès que fut achevée la lune de miel. Il se fit accompagner de ses compagnons de toujours, d'un photographe ambulant, et apporta le costume et la cape d'hermine maculée de sang que Fernanda avait porté le jour du carnaval. Dans la chaleur des festivités qui eurent lieu cet après-midi-là, il fit habiller Petrakotès en reine, la couronna souveraine absolue et à vie de Madagascar, et distribua à ses amis des tirages du portrait qui fut fait d'elle. Non seulement elle se prêta au jeu, mais dans le secret de son cœur, elle eut pitié de lui en songeant à la peur bleue qu'il avait dû éprouver pour imaginer pareille extravagance afin de se réconcilier avec elle. À 7 heures du soir, encore costumée en reine, elle le reçut dans son lit. Cela faisait à peine 2 mois qu'il était marié, mais elle se rendit compte sur le champ que les choses n'allaient pas très fort dans le lit conjugal, et elle se complut dans les délices de la vengeance consommée. Pourtant, 2 jours plus tard, lorsque, n'osant revenir lui-même, il dépêcha un intermédiaire pour régler les modalités de la séparation, elle comprit qu'il lui faudrait plus de patience que prévu, car il paraissait disposé à se sacrifier pour sauver les apparences. Là encore, elle ne se fit pas de mauvais sang. De rechef, elle facilita les choses en faisant montre d'une soumission qui renforça la vie générale selon laquelle ce n'était qu'une pauvre femme, et pour tout souvenir ne garda d'Aureliano II qu'une paire de bottines vernies dont il voulait, avait-il précisé, qu'on le chaussât dans son cercueil. Elle les conserva au fond d'une malle, enveloppée dans des chiffons, et se prépara à nourrir une attente sans désespoir. « Il faudra bien qu'il revienne tôt ou tard, se disait-elle, ne serait-ce que pour enfiler ses bottines. » Elle n'eut pas à attendre autant qu'elle le supposait. En fait, depuis sa nuit de noces, Aureliano II avait compris qu'il retournerait chez Petrakotès bien avant le jour où il lui faudrait chausser ses bottines vernies. Fernanda était une femme perdue pour le monde. Elle était née et avait grandi à 1000 kilomètres de la mer, dans une cité lugubre que sillonnait encore au long des ruelles pavées, cahotant dans les nuits d'épouvante les carrosses des vicerois. 32 clochers sonnaient le glas des morts à 6 heures de l'après-midi. Nul ne vit jamais le soleil entrer dans la demeure seigneuriale dallée de pierres funéraires. L'air avait cessé de vivre dans les cyprès du patio, les pâles tentures des chambres et sous les arcades suintantes du jardin aux tubéreuses. Jusqu'à l'âge de la puberté, Fernanda ne reçut d'autres nouvelles du monde que les gammes mélancoliques exécutées au piano depuis une maison voisine par quelqu'un qui, des années et des années durant, prit la liberté de ne jamais faire la sieste. Dans la chambre de sa mère malade, toute verte et jaune sous la poussiéreuse lumière qui tombait des vitraux, elle prêtait l'oreille à ses exercices musicaux auxquels on se livrait avec application, ténacité et découragement à la fois, et elle songeait que cette musique était dans le monde, alors qu'elle-même languissait à tresser des couronnes de palmes funéraires. Suant à grosses gouttes sous l'effet de la fièvre de 5 heures de l'après-midi, sa mère lui parlait des splendeurs du passé. Toute petite, par une nuit de lune, Fernanda avait vu une très belle femme vêtue de blanc traverser le jardin en direction de la chapelle. Ce qui l'inquiéta le plus dans la vision fugace de cette femme, ce fut qu'elle la sentit en tout point semblable à elle-même, comme si elle s'était vue 20 ans après.
« C'est ton arrière-grand-mère, la reine, » lui dit sa mère entre deux quintes de toux. La tête lui a tourné en coupant une branche de tubéreuse, et elle en est morte.
Nombre d'années plus tard, lorsqu'elle commença à se sentir ressembler à son arrière-grand-mère, Fernanda se prit à douter de la vision de son enfance, mais sa mère lui fit reproche de son incrédulité.
« Nous sommes immensément riches et puissants, » lui dit-elle. « Un jour, tu seras reine. »
Elle le crut. Bien qu'il ne se mît à la longue table couverte de nappes de lin et de vaisselle d'argent que pour prendre une tasse de chocolat à l'eau avec un morceau de cassonade. Jusqu'au jour de son mariage, elle rêva d'un règne de légende, bien que son père, Don Fernando, dût hypothéquer la maison pour lui acheter son trousseau. Ce n'était pas ingénuité ni folie des grandeurs. On l'avait éduquée ainsi. Depuis qu'elle était parvenue à l'âge de raison, elle se rappelait qu'on lui faisait faire ses besoins dans un petit pot de chambre en or avec l'écusson aux armes de la famille. C'est à 12 ans qu'elle sortit pour la première fois de chez elle, dans une voiture attelée qui n'eut que 2 rues à traverser pour la conduire au couvent. Ses condisciples furent étonnés de l'avoir tenue à l'écart, assise sur une chaise à très haut dossier, et de ce qu'elle ne se mêla pas à leur jeu durant la récréation.
« Elle est différente, » expliquaient les sœurs.
« C'est qu'elle va être reine. » Ses compagnes le crurent, car c'était déjà la plus jolie, la plus distinguée, la plus pudique jeune fille qu'il leur avait jamais été donné de voir. Au bout de 8 années, ayant appris à versifier en latin, à jouer du clavecin, à parler fauconnerie avec les hommes et apologétique avec les archevêques, à élucider les affaires d'État avec les gouvernants étrangers et les affaires de Dieu avec le pape, elle s'en revint chez ses parents tresser les palmes funéraires. Elle trouva la maison mise à sac. Il restait à peine quelques meubles indispensables, les candélabres et le service en argent. Les ustensiles domestiques avaient été vendus un à un pour payer ce qu'avait coûté son éducation. Sa mère avait succombé aux poussées de fièvre de la tombée du jour. Son père, Don Fernando, tout habillé de noir, étranglé par son col dur, une chaîne d'or en travers de la poitrine, lui remettait chaque lundi une pièce d'argent pour faire face aux dépenses du foyer et emporter les couronnes funéraires confectionnées dans la semaine qui venait de s'achever. Il passait la plus grande partie de la journée enfermé dans son bureau, et les rares fois où il mettait le nez dehors, il rentrait avant 6 heures pour dire son chapelet avec elle. Il ne fut l'ami intime de personne. Jamais elle n'entendit parler des guerres qui saignèrent à blanc le pays. Jamais elle ne manqua d'entendre les exercices au piano vers 3 heures de l'après-midi. Elle commençait même à ne plus se faire d'illusions sur son avenir de reine, quand péremptoire retentirent 2 coups de heurtoir à la porte du vestibule. Elle ouvrit à un militaire de belle prestance, aux manières cérémonieuses, qui portait une cicatrice à la joue et une médaille d'or sur la poitrine. Il alla s'enfermer avec son père dans le bureau. Au bout de 2 heures, celui-ci s'en vint la chercher à l'atelier de couture. « Préparez vos affaires, lui dit-il. Vous avez un long voyage à accomplir. » C'est ainsi qu'on la conduisit jusqu'à Macondo. En 1 jour, d'un seul coup brutal, la vie lui asséna tout le poids d'une réalité que ses parents avaient passé tant d'années à lui dissimuler. De retour à la maison, elle se cloîtra dans sa chambre pour pleurer, indifférente aux prières ou aux explications de Don Fernando, essayant d'oublier la brûlure que lui avait laissée cette farce si extraordinaire. Elle s'était jurée de ne plus sortir de sa chambre jusqu'à sa mort quand Aureliano le second vint la chercher. Ce fut par un inconcevable coup de chance, car, dans sa stupéfaction indignée, dans l'état de fureur où l'avait mise sa propre honte, elle lui avait menti afin qu'il ne connût jamais sa véritable identité. Les seuls indices réels dont disposait Aureliano le Second au moment de partir à sa recherche étaient sa façon de parler des habitants des hauts plateaux, qu'on ne pouvait confondre avec aucune autre, ainsi que son métier de tresseuse de palmes funéraires. Il la chercha comme un forcené, faisant preuve d'une témérité aussi effarante que celle de José Arcadio Buendía quand il traversa la Sierra pour fonder Macondo, d'un orgueil aussi aveugle que celui d'Aureliano Buendía quand il déclencha toutes ses guerres inutiles, d'une ténacité aussi insensée que celle d'Ursula tout le temps qu'elle assura la survie de sa descendance. Ainsi, Aureliano le Second rechercha-t-il Fernanda sans se décourager un seul instant. Lorsqu'il s'enquit de l'endroit où l'on vendait les palmes funéraires, on le conduisit d'une maison à l'autre pour qu'il choisît les meilleures. Lorsqu'il demanda où se trouvait la plus belle femme qu'il eût été donné de voir sur cette terre, toutes les mères lui amenèrent leurs filles. Il se perdit dans des défilés embrumés, des espaces de temps réservés à l'oubli, des labyrinthes de désillusions. Il traversa un désert tout jaune où l'écho répétait les pensées qu'on avait dans la tête et où l'anxiété suscitait les mirages prémonitoires. Au bout de plusieurs semaines sans résultat, il parvint jusqu'à une cité inconnue où toutes les cloches sonnaient le glas. Bien qu'il ne les eût jamais vues par le passé et que personne ne les lui eût décrits, il reconnut sur le champ les murs rongés par le sel des eaux, les balcons vermoulus dont les champignons faisaient éclater le bois et, cloué sur une porte d'entrée, presque effacé par la pluie, le petit carton le plus triste du monde, couronne funéraire à vendre. Entre ce moment et le petit matin gelé où Fernanda quitta la maison sous la garde de la mère supérieure, c'est à peine si les sœurs eurent le temps de coudre le trousseau et d'entasser dans des malles, au nombre de 6, les candélabres, le service en argent et le petit pot de chambre en or, ainsi que les innombrables et inutilisables débris d'une catastrophe familiale qui avait attendu 2 siècles pour se consommer. Don Fernando déclina l'invitation qui lui fut faite de les accompagner. Il promit de s'y rendre plus tard, quand il en aurait fini avec ses affaires en cours, et dès qu'il eut donné sa bénédiction à sa fille, il alla s'enfermer à nouveau dans son bureau pour lui écrire ces sortes de faire-part aux douloureuses images marquées aux armes de la famille, qui devaient être entre Fernanda et son père le premier contact humain de toute leur existence. Pour elle, ce fut sa vraie date de naissance. Pour Aureliano II, ce fut presque simultanément le début et la fin du bonheur.